Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Le Saint-Père a reçu lundi les jeunes gardes suisses qui ont prêté serment dans la soirée du 6 mai ainsi que leurs familles. Saluant leur haut niveau de motivation et de volonté à servir, François les a exhortés à cultiver activement et intensément la vie communautaire dans une compagnie diversifiée. Le pape François a reçu également en audience le président de la République d'Albanie, Bajram Begaj, dans la matinée du lundi. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Tchad, en Guinée et au Cameroun. Les Tchadiens se sont rendus aux urnes lundi pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire dans une présidentielle qui se résume à un duel inédit entre le général Mahamad Idriss Déby Itno et son premier ministre Succé Masra, ex-opposant rallié à son régime. Nous y reviendrons de l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira aussi au Togo et au Mozambique. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons tout d'abord la parole à Mgr Bonaventure Naimana, président de la Conférence épiscopale du Burundi, et nous terminerons cette édition avec Mgr Jean-Bernard Aseko, porte-parole du dialogue national qui s'est tenu au Gabon du 2 au 30 avril 2024. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
Radio Vatican, Français Afrique, Christian Lossambé.
Le 6 mai marque une date importante pour la garde suisse pontificale. C'est en effet à cette date que les nouvelles recrues prêtent serment en ce jour où est commémoré le sac de Rome. Cette année, ils ont été 34 à s'engager officiellement pour 2 ans, venus de tous les cantons suisses. Le pape qui les a reçus dans la matinée du lundi a salué leur haut niveau de motivation et de volonté à servir. S'arrêtant sur l'importance des relations humaines qui soudent le corps de cette armée unique en son genre, présente pour protéger la cité du Vatican, accompagner les cérémonies et les voyages apostoliques, l'évêque de Rome leur a expliqué que les 2 ans de service passés dans la garde ne sont pas seulement une période de travail, mais un temps de vie et de relations, de communion intense dans une compagnie diversifiée. Ainsi, François a exhorté les jeunes recrues à cultiver activement et intensément la vie communautaire. Rappelons que cette journée a débuté par la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le cardinal Pietro Parolin. Présents avec leur famille, les gardes suisses ont été reçus en audience par le pape et la prestation de serment a eu lieu à 17h dans la cour Saint-Damase du palais apostolique au Vatican. Le pape a reçu lundi en audience le président de la République d'Albanie, Bajram Begaj, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, accompagné de Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours des entretiens cordiaux qui se sont déroulés à la secrétaire d'État, le pape et le président albanais se sont penchés sur diverses questions internationales en accordant une attention particulière à la région des Balkans occidentaux et aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Dans un message adressé samedi à toutes les communautés paroissiales, sacerdotales et religieuses, ainsi qu'à toutes les institutions de l'Église catholique de l'archidiocèse de N'Djamena, au Tchad, Mgr Edmond Djitangar a invité les fils et filles du pays qui se sont rendus aux urnes lundi 6 mai pour les élections présidentielles à accomplir leurs devoirs civiques avec conscience et responsabilité. Tout en invitant tous les fidèles à prier pour les candidats aux élections présidentielles, Mgr Djitangar a exhorté chaque fidèle catholique engagé dans ces élections, à quelque titre que ce soit, d'être exemplaire dans son comportement et d'agir en citoyen libre face aux pressions morales, aux menaces et à la corruption. L'Assemblée de la Conférence épiscopale de Guinée s'est tenue du 30 au 3 mai à Conakry. À cette occasion, les prélats guinéens ont passé en revue la vie de leur diocèse respectif en conformité avec la marche synodale de l'Église catholique universelle. Les précisions de Joannita Scholastique.
C'est en présence du nonce apostolique en Guinée et au Mali et les cinq diocèses représentés par leurs évêques que l'Assemblée de la Conférence épiscopale de Guinée a débuté ce 30 avril et a pris fin le 3 mai. Au terme de cette assemblée, le nouvel évêque du diocèse de Boké, Monseigneur Moïse, au nom de ses supérieurs dans le sacerdoce, adresse un message à l'endroit du peuple de Guinée en les invitant au dialogue et à cultiver la cohésion.
Nous en appelons aux autorités politiques et administratives, partis politiques, aux syndicats, à la société civile et à toutes les forces vives pour que chacun mette la balle par terre, calme les tensions au lieu de souffler sur les braises. Ceci exige qu'ayant une seule Guinée comme héritage, nous nous mettions autour d'une table pour discuter.
Malgré le manque de courant, les incendies répétés et le brouillage des ondes de certains médias que les évêques n'ont pas manqué de signaler, ils reconnaissent les efforts des autorités en place, notamment dans le domaine des infrastructures. Ils invitent les autorités à tenir compte de la nécessité et de l'urgence à définir un cadre de dialogue inclusif et qu'une messe sera dite pour le pardon entre les fils et filles de la Guinée. Juanita Scolastique, Conakry, pour Radio Vatican.
Et au Cameroun, le 38e anniversaire des apparitions de la très sainte Vierge Marie, qui aura lieu le 13 mai 2024, se prépare activement au sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Simalène à Yaoundé. En ce lieu, reconnu comme le premier site de ressourcement spirituel du pays, la Mère du Seigneur était apparue pendant 9 jours à des enfants. C'est ce que nous explique notre correspondante Paul-Valéry Mendogo.
Depuis le 13 mai 1986, date marquant le début des apparitions présumées de la très sainte Vierge Marie en Simalène, le site ne désemplit pas de jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil, des fidèles qui prient et qui font pénitence. Et voici 38 ans que cela dure. La petite broussaille de 1986 est d'abord envahie par une foule de curieux, puis quelques années de doutes et de manœuvres sceptiques céderont la place à des pèlerins un peu têtus et parfois marginalisés par ceux qui considèrent Simalène comme une affabulation. Enfin, plusieurs mouvements, associations et congrégations religieuses vont naître d'un Simalène, entraînant une foule immense de pèlerins sérieux qui conduisent l'archevêque de Yaoundé en 2004 à ériger la paroisse Notre-Dame de la Paix d'un Simalène en sanctuaire marial. Et aujourd'hui, Simalène est reconnue comme le premier lieu de ressourcement spirituel au Cameroun. Au fil des années, ce site continue de soutenir la foi de milliers de personnes tant au Cameroun qu'à l'extérieur. On se souvient qu'en 2019, plus de 20 000 pèlerins s'étaient rassemblés en Simalène et parmi lesquels une importante délégation venue de Kibeho, une localité du sud du Rwanda qui a connu un événement similaire entre 1981 et 1983. L'on est donc passé du doute à l'appellation phénomène d'une Simalène, puis à celle d'apparition présumée. Paul-Valéry Mondogo d'EDEA pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Les Tchadiens votaient lundi pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire, une présidentielle opposant principalement le chef de la transition militaire, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime. 8 autres candidats étaient en lice. Au Togo, l'opposition appelle à se réinventer après sa lourde défaite aux élections législatives du 29 avril, tout en dénonçant une mascarade électorale. L'opposition, qui avait boycotté le dernier scrutin législatif de 2018, comptait sur une forte mobilisation de ses électeurs, mais le parti du président Faure Gnassingbé, l'Union pour la République, a raflé 108 sièges de députés sur 113, selon les résultats provisoires proclamés samedi soir par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti au pouvoir au Mozambique, le Frelimo, a choisi le gouverneur provincial Daniel Chapo comme nouveau dirigeant. Il succédera au président Philippe Nyusi si le parti remporte les élections prévues en octobre, a annoncé le parti dans la nuit de dimanche à lundi. Le comité central du Frelimo, qui compte quelque 250 membres, a élu M. Chapo face à 3 autres candidats internes dans une décision surprise annoncée à l'issue de plus de 2 jours de débats intenses, plusieurs votes successifs et enfin le retrait de son plus proche rival. Daniel Chapo, ex-professeur de sciences politiques et présentateur de radio, est gouverneur de la province centrale d'Inhambane depuis 2016. À 47 ans, il est le premier candidat présidentiel du Frelimo à être né après l'indépendance du Portugal en 1975. Dans une lettre adressée le 14 avril, les évêques du Burundi appelaient à la paix et au respect des libertés afin de consolider la confiance et de promouvoir la réconciliation. La lettre avait provoqué plusieurs réactions allant dans tous les sens. Monseigneur Bonaventure Naïmana, président de la conférence épiscopale du Burundi, revient sur cette lettre et clarifie le contexte.
En date du 14 avril, la conférence épiscopale du Burundi a adressé un message pastoral à tous les catholiques, à tous les hommes de bonne volonté pour leur souhaiter de bonnes fêtes pascales. Le message part de la salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Et ce message s'insérait aussi dans le contexte socio-ecclésial de notre pays. Alors, partant de la parole de Dieu, qui était axé précisément sur la paix que Jésus nous donne par sa mort et sa résurrection, nous avons jeté un regard sur notre situation pour aussi inviter les fidèles à être assez vigilants pour ne pas se laisser décourager par ce qu'ils vivent, les situations parfois difficiles qu'ils peuvent traverser.
Et vous avez insisté sur les besoins de la paix dans votre pays.
Dans notre pays, comme vous le savez, nous avons besoin de cette paix, une paix, comme le disons dans le message, qui est un salut, qui rassérène et affermit la foi, une paix qui donne l'espérance d'un avenir meilleur et une paix qui libère l'homme, je dirais comme le voyons dans le cas des disciples d'Emmaüs, de la peur qu'il habite, même de l'angoisse qu'il peut rencontrer dans sa vie. Ainsi, ce message invite tous les fidèles chrétiens à être des artisans de paix dans notre vie, dans notre pays, et une paix qui se fonde sur la liberté, la justice, l'amour et la vérité.
Et vous avez aussi parlé de l'histoire de votre pays jalonnée par des conflits.
Nous sommes partis aussi de l'histoire de notre pays qui a été jalonnée par des conflits, des crises cycliques dont les conséquences sont toujours là et qui ont laissé des blessures et des traumatismes dans la population. Et nous voyons qu'il peut y avoir des signes qui peuvent compromettre, disons, la paix dans notre pays, puisque la paix, c'est pas un acquis. La paix est à construire, est à cultiver chaque jour, et le chemin de la paix est toujours parsemé d'embûches, d'obstacles qu'il faut chercher à surmonter à tout moment.
Dans votre message, vous avez aussi appelé à consolider la confiance mutuelle basée sur la paix dont vous venez de parler et la réconciliation, en tenant compte des tragédies récurrentes dans l'histoire du pays. Est-ce qu'il y a des efforts qui se font déjà dans ce sens, Monseigneur?
Oui, il y a des efforts qui se font et c'est pour cela que nous voulons encourager les uns les autres à aller de l'avant. D'abord au niveau ecclésial, vous le savez, nous avons tenu des synodes diocésains sur la paix et la réconciliation. Et maintenant, on s'efforce de mettre en pratique les décrets et les propositions ici de ces synodes. Et au niveau du gouvernement, il y a la commission Vérité et Réconciliation qui est à l'œuvre. Il reste que cette commission puisse bien faire son travail et que aussi nous tous Burundais, nous puissions collaborer à cette commission pour arriver à connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans notre pays.
Monseigneur Bonaventure Naïmana, président de la conférence épiscopale du Burundi, des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Tenu du 2 au 30 avril 2024, le dialogue national au Gabon s'est clôturé sur une note de satisfaction. Des ambitions stratégiques ont été définies et une grande relance est attendue dans plusieurs secteurs de la vie de ce pays d'Afrique centrale. C'est ce dont nous parle le porte-parole de ce dialogue, Monseigneur Jean-Bernard Asseko. Il est accompagné de Monseigneur Mathieu Madega, évêque de Mouya et assistant du président du dialogue national et inclusif.
tel que déclaré par Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain et président de ce dialogue national inclusif. Nous partons de ce dialogue avec une immense satisfaction et nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement et des débats et des résolutions pour la plupart adoptées par acclamation par l'ensemble des commissaires retenus pour ce dialogue national inclusif. L'Église se réjouit aussi d'avoir organisé la police des débats, la discipline de travail, les méthodologies aux côtés du ministère de la réforme des institutions et de toutes les expertises retenues pour ce dialogue national inclusif. Et le peuple gabonais, qui était très représenté, nous a présenté sa réjouissance et sa satisfaction par les acclamations sans cesse répétées lorsque on livrait les conclusions de ce dialogue national inclusif.
Comment étaient organisés les travaux, Mgr Mathieu Madega?
Le dialogue avait consisté d'abord à recueillir toutes les participations de personnes et on en a reçu 38 000. Et ces participations ont été sériées et organisées en commission politique, commission économique, commission sociale. Et c'est la commission sociale qui a reçu la plus grande participation. Et chaque commission était organisée en sous-commission. Et il y avait 4 sous-commissions pour chaque commission. Et ça s'est vraiment bien passé parce que les sous-commissions ont bien travaillé. Et ensuite, les commissions ensemble ont bien travaillé et avec le bureau qui a coordonné tout cela, le travail a été excellent.
Ce dialogue national et inclusif avait notamment pour objectif de dessiner la maquette d'un Gabon meilleur pour les futurs. Cet objectif a-t-il été atteint?
Bien, alors nous allons tout de suite vous dire que les objectifs sont atteints, les objectifs des assises d'Angoudjé sont atteints parce qu'il s'agissait de dessiner une nouvelle maquette à présenter à ceux qui gouvernent notre pays aujourd'hui. Et la maquette, elle est bien faite, elle est bien dessinée, elle est bien arrondie, bien équilibrée.
Et quelles sont les caractéristiques de cette maquette?
Nous avons, sur le plan social, vraiment, toutes les résolutions vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie de tout un Gabonais et du Gabon lui-même. La densité, la complexité des thématiques a poussé l'ensemble des commissaires à définir des ambitions stratégiques pour un Gabon nouveau. Et lorsque le professeur Elsa, responsable de cette commission, a présenté les résolutions de sa commission, elle a été ovationnée. La même chose, lorsque le professeur Zomoyebe est venu présenter la situation, d'abord le diagnostic du Gabon d'avant août 2023, des ambitions stratégiques exprimées par l'ensemble des contributions, les 38 000, les réflexions menées par l'ensemble des commissaires, des sous-commissions et de cette commission économie, le professeur Zomoyebe a été ovationné et l'ensemble des Gabonais se dit satisfait. Ceux qui étaient là à Angoudjé et ceux qu'on rencontre dans les quartiers se disent satisfaits des améliorations, des innovations et des propositions fortes pour l'amélioration de la vie économique de notre pays.
Vous parlez des ambitions stratégiques, une grande relance est donc attendue.
La même chose, lorsqu'on est passé en dernier ressort à la commission politique, les Gabonais ont retrouvé l'expression de tout ce qu'ils ont envoyé comme contribution. Ils se sont reconnus dans les résolutions, et les résolutions très fortes que le professeur Boudanga nous a présentées ont été elles aussi ovationnées. Sur le plan politique, par exemple, vous imaginez un pays comme le Gabon avec à peu près 1 500 000 habitants maximum, avec 104 partis politiques. 104 partis politiques qui étaient là pour alourdir le train de vie de l'État. Il fallait donc mettre à plat le paysage politique de notre pays.
Il s'agira donc d'une réduction du nombre des partis politiques?
Ah non, c'est pas la réduction. Nous avons opté pour la dissolution de l'ensemble des partis politiques et on va passer à une nouvelle redéfinition de création de partis politiques. Donc voilà, et ça permettrait d'avoir un peu moins de partis politiques avec des idéologies bien connues.
Vous venez d'écouter Mgr Jean-Bernard Asseco, porte-parole du dialogue national et inclusif du Gabon, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.